Parking Nomade.
Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parking Nomade, émission qui s'intéresse à la littérature sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'écrivain Alain Mabankou, poète, essayiste, romancier, incidemment d'origine congolaise. Et nous allons parler plus particulièrement de son dernier ouvrage, Lumière de Pointe-Noire, paru aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Alain Mabankou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va présenter un peu brièvement le livre. Lumière de Pointe-Noire est un récit autobiographique qui tient aussi par moments de l'art poétique, car on y voit tout le substrat de l'écrivain que vous êtes devenu, parce que là, on vous saisit au fond dans les années d'enfance et d'apprentissage, rétrospectivement, parce que c'est l'homme que vous êtes maintenant qui retourne là-bas. Alors, un mot des circonstances de rédaction de ce livre. Un jour, vous êtes invité à donner une série de conférences à Pointe-Noire, à l'invitation de l'Institut français, Pointe-Noire, petite ville côtière où vous avez grandi et où vous n'êtes pas retourné depuis 23 ans, alors que vous êtes parti en France, puis en Amérique, où vous vous êtes établi. Alors, vous décidez d'en profiter pour profiter de ces conférences pour revoir la famille et dites-vous écrire un livre. Donc, d'emblée, vous voilà à l'affût d'un matériau littéraire à saisir. Est-ce à dire qu'un écrivain ne peut pas se contenter d'être un fils, un cousin, un oncle, un demi-frère, un ancien élève, pour ceux qu'il revoit?
Bien, je pense que c'est... Lumière de Pointe-Noire est un livre qui est arrivé pour moi comme un orage que n'avait pas prévu la météo. C'est vrai que j'étais allé au Congo pour rencontrer les lecteurs, les Ponténégrins, les habitants de Pointe-Noire. Mais il se trouve que ces habitants, cette ville, m'ont offert peut-être la possibilité d'ouvrir les pages de mon enfance. Je sais que je pouvais me contenter d'être cousin, frère et autres, mais ce n'est pas évident lorsque vous avez laissé un pays depuis 23 ans. Quand vous arrivez, vous êtes forcément un autre. Et peut-être le livre est une quête pour retrouver le statut que j'avais avant, celui de frère, celui de cousin, celui d'oncle, de neveu. Et cette quête, eh bien, elle était quotidienne, elle était parfois douloureuse, souvent émotionnelle, mais il restait que la patte de l'écriture devait être essentielle.
Oui, et donc de transformer en livre ce matériau, ben c'est tout simplement parce que vous êtes un écrivain par toutes vos fibres, même si le petit garçon de l'époque ne le mesurait pas encore. Le récit s'ouvre sur un récit folklorique. La vieille dame dans la lune, qui est une sorte de figure rédemptrice, qui vous amène... Alors, c'est ça, les enfants, en tout cas, le folklore veut qu'il y ait dans la lune une vieille dame. Ça existe dans d'autres folklores, d'ailleurs.
Oui, ce sont les mythologies sur la création du monde. Au Congo-Brazzaville, nous avons tendance à penser que le monde était créé sous le sceau de la souffrance et qu'il faut toujours quelqu'un pour se sacrifier afin que nous ayons le bonheur sur terre. Et la personne qui s'est sacrifiée pour nous est une vieille dame qui habite dans la lune, qu'on peut apercevoir, évidemment, lorsqu'il y a la lune, on imagine une silhouette à l'intérieur. Et moi, partant de cette mythologie qui ouvre le livre « Lumière de Pointe-Noire », j'ai essayé de comprendre si c'était la même femme que je voyais lorsque j'avais 10-11 ans et si c'est la même que je voyais aujourd'hui dans les années 2000, puisque j'ai bien vu la lune là-bas et j'ai bien vu qu'il y avait toujours la présence de cette femme qui portait sur elle le poids du monde, sauf que cette fois-ci, cette femme, c'était devenue ma mère.
Oui, c'est ça. Alors, question métaphysique, la lune a-t-elle changé? Voilà qui vous attend à la descente de l'avion. Mais aussi, en effet, cette figure rédemptrice vous amène à évoquer le souvenir de votre mère. On va y revenir, si vous voulez, un peu plus plus tard. Mais dans la, pour l'instant, dites-moi, pourquoi ce détour par la fable, par les récits populaires, qui, vous l'avez dit, touchent à la cosmogonie par moment? Quels sont les liens entre ces récits populaires et la littérature telle que vous l'entendez? En quoi s'en distingue-t-il aussi?
Ben, on a, en Afrique et même dans beaucoup de sociétés, sans doute, on ne peut pas dissocier la fable, la mythologie, la cosmogonie de la vie quotidienne. Chaque acte que nous posons dans la vie est, une, est un résultat de ces mythologies. Donc, je pense que dans la littérature venue d'Afrique, et je pense même du côté de l'Amérique latine, s'il n'y a pas de fable, s'il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas ce qui fonde la littérature. La littérature, c'est une sorte de d'élévation au-delà de la réalité pour aller chercher derrière le côté matériel et physique des choses ce qui peut être spirituel. Et la spiritualité est du domaine de la fable, est du domaine de la cosmogonie. Les croyances que certains Européens prendraient pour de la naïveté primitive sont pour nous des éléments qui fondent notre identité. Un Africain qui n'a plus ses croyances, est devenu pratiquement peut-être un acculturé. Vous savez, l'acculturation, c'est accepter une culture qui est venue d'ailleurs et gommer la sienne. Je ne peux pas gommer ma culture parce que c'est elle qui me donne la respiration dans l'écriture. J'écris parce qu'il y a une sorte de tremblement à l'intérieur de moi, et ces tremblements, eh bien, ce sont ces mythes, ce sont ces théories, ce sont ces croyances qui semblent banales, mais qui, au fond, font de ce monde quelque chose d'acceptable.
Oui, croyance, vous avez mentionné le mot à quelques reprises, et vous écrivez dans le livre, la croyance demeure intacte. Donc, après toutes ces années, après les passages à l'université, le séjour parmi la culture occidentale, blanche, même si vous avez grandi, cette croyance semble même ravivée par le retour au bercail. Est-ce à dire que l'ailleurs incarne la raison et le pays de l'enfance, l'affect, l'irrationnel? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Ben, disons que l'ailleurs peut incarner la raison, le pays de l'enfance, le cœur. Le cœur, c'est le moteur de tout. C'est vrai que j'ai voyagé, c'est vrai que j'ai connu des cultures qui résonnent par une certaine logique, mais parfois je préfère à cette culture de logique celle de l'intuition. C'est ça qui fonde la société congolaise. On vit par intuition. On sent les choses, on n'a pas besoin de les expliquer, elles sont là et leur mystère fait que, justement, ces choses demeurent toujours à prospecter. Ouais. Donc, dans la plupart de mes romans, j'essaye toujours de rester dans cette naïveté. Et c'est terrible pour un Africain ou quelqu'un qui gommerait cela. Ça ressemblerait peut-être à un zèbre qui veut cacher ses zébrures. Or, ce qui fonde le zèbre, ce sont les zébrures. Quand il n'y a plus les zébrures, ce n'est plus un zèbre, ça devient un animal atypique.
Et ce n'est et ni un âne, ni un cheval.
Ni un âne, ni un cheval. Ouais. On ne saura plus où le classer. Ce que je voudrais, c'est de garder mes zébrures jusqu'au bout, parce que c'est ça qui fait le zèbre.
Oui, et puis après tout, l'intuition, enfin, c'est le mode d'appréhension du monde par excellence, de, en tout cas, on imagine, de l'écrivain, de tout écrivain, hein, congolais ou pas. Votre mère, Pauline Kenge, meurt en 1995. Elle joue un rôle important dans le livre. Vous êtes alors étudiant à Paris. Vous savez que vous lui devez beaucoup. Ce livre le montre assez. Vous êtes paralysé par la nouvelle. Vous évoquez votre état d'esprit de l'époque et vous n'irez pas aux obsèques. Vous tournez en rond, vous écrivez des poèmes à la disparue. Alors, j'ai calculé, le narrateur qui est vous, en fait, est né en 1966. Vous avez donc à l'époque 29 ans. C'est la jeunesse qui est ingrate, ou en tout cas en apparence, ou c'est la nécessité déjà de prendre une distance ou d'être ailleurs ou...
Mais je pense, bon, c'est vrai, on a toujours tendance à affecter l'ingratitude à la jeunesse, mais il arrive aussi que la vieillesse puisse être plus ingrate que la jeunesse. La vieillesse, c'est quoi? C'est peut-être l'oubli de ce qu'on a été lorsqu'on était jeune et l'acceptation du fait qu'on arrive au bout d'un long chemin. Mais un vieux qui n'a jamais oublier sa jeunesse restera éternellement jeune. Et je pense que moi, je ne peux parvenir à ce constat ou à cette situation qu'en passant par le biais de la littérature, en inscrivant sur du marbre les instants les plus magiques de ma jeunesse. Et quand je les écris, j'ai l'impression de gagner peut-être en tranquillité intérieure. Et je n'ai jamais craché sur cette jeunesse parce que je sais que c'est elle qui me permettra de rester debout lorsque je serai très vieux.
La dernière rencontre avec votre mère remonte à 1989, alors que vous partez étudier le droit à Paris, et elle vous dit, cette phrase très belle, « Deviens celui que tu voudras devenir et n'oublie jamais que l'eau chaude a déjà été froide. » Comment interprétez-vous cette recommandation?
Mais c'est ma mère qui aimait beaucoup dire que les origines étaient importantes. Lorsqu'elle dit que l'eau chaude n'oublie jamais qu'elle a été froide, ça veut dire que quel que soit le séjour que je vais passer en Europe, la pire des choses qui pourraient m'arriver, c'est d'oublier que je suis un Congolais,
que je suis
de Pointe-Noire. Ouais. C'est la fameuse image du zèbre et ses zébrures. Il ne faut jamais cacher qui on est. Il ne faut jamais essayer d'entrer dans une culture en éliminant la sienne. Il faut chercher l'intersection. Il faut chercher ce qui soude les cultures et non ce qui exclut en quelque sorte les autres cultures. Donc j'ai toujours été celui que je voudrais être, c'est-à-dire toujours un Ponténégrin, quelqu'un de Pointe-Noire, parce que le charbonnier a beau cacher qu'il est charbonnier, si vous fouillez bien dans sa maison, il va traîner toujours un petit bout de charbon qui rappellera son activité principale. Eh bien, je suis un Ponténégrin, j'ai beau cacher tout, je peux tout cacher, mais lorsqu'on lit mes livres, le rythme, la phrase, le comportement même de mes personnages font que je reste celui que je suis, donc en adéquation avec les ultimes paroles de ma mère.
Oui, mais elle vous enjoint aussi, et c'est dans la foulée, Alain Mabankou, de chérir le souvenir des ancêtres. Mmh. Mais n'est-ce pas là surtout le lot d'un mode de vie traditionnel auquel appartenait votre mère? Et peut-on être l'écrivain que vous êtes et chérir le souvenir des ancêtres comme votre mère vous enjoignait de le faire? Créer, après tout, c'est aussi créer du neuf, non?
Oui, c'est créer du neuf. Mais en général, le neuf ne jaillit que de ce qui a été déjà vieux. Parce que le neuf n'existe que parce qu'il y a de l'ancien à côté. Sinon, c'est quel type de création? Sui generis, original, même l'originalité, c'est une reprise du vieux, mais sous un autre angle.
Donc le neuf, c'est par contraste, il n'y a pas une naissance du neuf?
Moi, je ne crois pas aux choses qui jaillissent comme ça et qui n'existaient pas. Vous savez, je prends toujours l'exemple d'une guitare qui a 6 cordes. On a l'impression qu'en un an, on aurait terminé tous les rythmes. Mais chaque fois que vous changez un guitariste, il jouera d'autres rythmes. Et on joue l'instrument depuis des millénaires et des millénaires. Et on a toujours un son nouveau, mais qui part toujours de l'ancien. En littérature, c'est la même chose. Vous croyez inventer, mais en fait, vous poursuivez une œuvre qui a déjà été entamée par des grands auteurs ou des médiocres aussi. C'est pour cela qu'on écrit en se disant, bon, je vais essayer
de faire mieux,
de faire mieux, ouais, dans ce sens. Donc, le neuf existe. Mais si le neuf existe et est célébré, c'est parce que le vieux a été là et a permis au neuf d'éclore.
Oui, d'exister. Quand vous arrivez à Pointe-Noire et que vous revoyez les gens que vous avez connus, la parentèle, les professeurs, etc., vous constatez que tout le monde a vieilli. Le regard que pose l'écrivain sur la réalité l'empêche-t-il, lui, de vieillir? Le préserve-t-il, dans une certaine mesure, de la vieillesse, en tout cas de la vieillesse de l'esprit?
Mais je suis persuadé que l'écriture nous laisse ou nous donne une jeunesse éternelle. Pour écrire, il faut toujours rester jeune, quel que soit son âge. Les écrivains, ils n'ont pas d'âge. Un auteur de 80 ans peut vous écrire la plus belle histoire d'amour qui se passe dans la jeunesse. De la même manière, un jeune de 21 ans va vous écrire une prose très stylée qui rappellerait plutôt les époques anciennes. C'est la faculté que nous avons en tant qu'écrivains de pouvoir rentrer dans les époques, de pouvoir rentrer dans des réalités qui ne sont pas parfois les nôtres, mais on entre effectivement dans la peau de n'importe quelle époque. Et donc, je pense que c'est une chance, voire même une bénédiction, que d'être dans la création. Ça se retrouve aussi dans la peinture, dans la sculpture, dans le cinéma. Ça dépend de ce que vous faites de votre art.
Oui, on peut même envisager d'échapper au temps, du coup, ce qui serait l'utopie, voilà. L'utopie suprême. Trois lieux sont fondamentaux à vos yeux, écrivez-vous, et vous vous y attardez. Ce sont, un, le lycée, deux, la case de votre mère, qu'elle a fait construire en maîtresse-femme, hein, avec son argent gagné au marché. Et trois, le cinéma Rex, devenu aujourd'hui, à l'époque où vous y passez, là, une église pentecôtiste, mais qui à l'époque, en tout cas enfant, vous a fait rêver l'adolescent que vous étiez, et pas seulement vous d'ailleurs. Ce qui unit ces trois lieux, à mes yeux, c'est le savoir, l'apprentissage. Que vous ont-ils appris au juste et en quoi ce savoir est-il encore agissant aujourd'hui?
Mais je pense que la case de ma mère, c'est une petite bicoque en planche qui est toujours là. Cette case m'a appris l'humilité, quelle que soit la maison dans laquelle vous vivez, il ne faut pas désespérer. Parce que quand vous dormez dans une case en planche, lorsqu'il pleut, l'eau vous tombe dessus, il suffit d'être dans l'esprit selon lequel vous pensez que vous êtes dans un château, et ça sera un château. Le château n'est pas ce que vous voyez dans les livres de Marcel Pagnol ou dans les cinéma de Twilight ou quoi, le château est dans la tête. Dans la mesure où vous êtes convaincu que votre bicoque est le plus grand royaume du monde, il sera le plus grand royaume du monde. Je vivais dans cet esprit et la salle de cinéma, le Rex, était l'endroit où nous venions voir le monde. Les films du monde entier étaient projetés là. Les acteurs les plus beaux et les plus crapuleux, on les voyait dans ce cinéma. Le lycée Karl Marx, c'était la source même du savoir nécessaire pour nous, de nous épanouir. On était dans un régime marxiste-léniniste, c'est pour ça que le lycée s'appelait Karl Marx. Et dans ce lycée, malgré le fait que nous étions dans un tout petit pays et que c'était un lycée un peu éloigné des quartiers populaires, mais c'est là aussi que nous venions à la rencontre du monde. De voir la disparition des cinémas en Afrique, au Congo, de voir le lycée Karl Marx aujourd'hui toujours là, je me dis, j'ai un sentiment mitigé, j'ai peur parce qu'il n'y a plus de cinéma chez moi, donc manque de voyage. Au lycée Karl Marx, je ne sais pas quelle discipline on apprend désormais là-bas, mais je suis persuadé au moins que si le lycée est resté, c'est qu'il y a toujours de l'espoir.
Quand vous étiez enfant et adolescent et que vous découvriez la lecture, parce que la lecture est aussi une formidable machine à rêve et en même temps une épreuve du réel, vous alliez à la bibliothèque de l'Institut français, vous le racontez, et vous lisiez les classiques de la littérature française, par ordre alphabétique d'ailleurs. Alors vous commenciez par la lettre A, Alain Fournier, Apollinaire, etc. Et puis peu à peu, vous passiez à B, Balzac, vous devenez proche. Alors c'est justement, ces Balzac, Alain Fournier, vous étaient-ils proches alors que vous viviez dans un milieu bien différent de celui qu'il pouvait dépeindre? Autrement dit, la littérature française que vous lisiez à l'époque était-elle universelle, comme on l'a souvent dit, ou était-elle française?
Non, lorsqu'on lit un auteur, on a l'impression qu'il a notre nationalité. Parce qu'en général, l'écrivain a la nationalité du lecteur qui est en train de le lire. Quand j'ai lu Yukio Mishima du Japon, j'ai l'impression que, bon, je deviens japonais ou que c'est lui qui devient congolais puisque je rentre facilement dans son univers. On n'arrive pas à suivre un auteur lorsqu'il n'y a pas cette sorte de complicité géographique qui se fait. Lorsqu'on lisait du Marcel Proust en Afrique, on pensait que, bon, c'était quelqu'un qui nous était proche, qui savait qui on était. Lorsqu'on lisait Gabriel Garcia Marquez, c'est la même chose. Donc je pense que le fait d'avoir lu cette littérature française, et en plus la France nous avait colonisés, on avait l'impression que c'était des auteurs de chez nous. Ça faisait partie de notre culture. Donc je les lisais, c'est vrai, par ordre alphabétique. Les histoires de Balzac nous étaient très proches, on était dans leur univers. On ne pouvait pas imaginer qu'est-ce que la bourgeoisie, mais la pauvreté, on la sentait là. Les gens humbles, on les voyait. C'est comme lorsqu'on lisait Germinal de Zola. On reconnaissait dans la lutte des peuples, des classes, quelque chose qui nous était très proche. Donc moi, je lisais ces auteurs comme des amis, comme des compagnons. Je ne faisais même pas état qu'ils appartenaient à la littérature française.
Ouais. Donc cette part universelle, elle est propre à la littérature, point.
Elle est propre à la
littérature. Et à la lecture, et à l'acte de lecture.
Elle est propre à la littérature, à l'acte de lecture. La lecture, c'est ça, c'est la seule activité, le seul voyage qui ne vous oblige pas à montrer le passeport aux frontières. Ouais. Vous allez directement, vous entrez et vous revenez n'importe quand. Parfois, vous pouvez rester dans le pays de ces romans. Et c'est à ce moment-là que vous devenez romancier.
Oui. Alain Mabankou, un ami français que vous mettez en scène, originaire de Pointe-Noire lui aussi, dit de Pointe-Noire que c'est un paradis de misère. Et vous notez aussitôt que ça relève d'un cliché, et qui plus est d'un cliché européen qui intériorise en quelque sorte le natif dans son propre regard. Ça a été étudié et théorisé, ce regard intériorisé de l'autre. Comment échapper à ce regard blanc, si on vit parmi les Européens depuis longtemps?
Bon, il y a le fait que beaucoup d'Européens ont des images d'Épinal, des clichés sur l'Afrique. Ils pensent qu'en voyant les gamins marcher pieds nus, ça symbolise la pauvreté. Ils pensent qu'en voyant un gamin marcher torse nu, ça symbolise la pauvreté. Sauf que les critères de réussite ou les critères de la richesse ont été dictés par les puissances, les grandes puissances. Donc, l'Europe a une définition de la richesse qui n'est pas la nôtre. Moi, derrière ces enfants que je voyais au Congo, je voyais de l'énergie, je voyais une ambition qui était la leur, cette ambition de réussir. Et moi, j'avais le devoir d'accompagner ces jeunes personnes.
Donc, c'est la réalité, ne jamais perdre de vue la réalité qui permet, dans une certaine mesure, d'échapper aux clichés.
Ne jamais perdre la réalité et ne jamais juger les autres selon les critères de sa propre civilisation.
Ouais.
On n'est pas heureux. Le bonheur n'a pas la même définition en France qu'au Congo-Brazzaville. Ouais. Nous, notre bonheur, s'il suffit de courir, de laisser le vent élever notre chemise, de cueillir des mangues, d'aller à la pêche, de jouer du football avec des ballons que nous avions fabriqués nous-mêmes avec les pagnes de nos mamans, c'est un bonheur. On n'a pas forcément besoin de l'électricité, de la télévision, de la dernière voiture à la mode, etc., etc. Ça, c'est une autre société.
Alain Mabankou, dernière question, très brièvement. Vous écrivez « J'avance avec le poids de l'ingratitude ». On en a parlé tout à l'heure aussi. Mais on pourrait dire que cette impression d'ingratitude pourrait se prolonger chez le lecteur s'il pense qu'en écrivant ce livre, vous avez volé leur histoire aux gens. On sait bien qu'il n'en est rien, mais ce rapt littéraire laisse-t-il ces êtres, ces personnages appauvris, renvoyés à leur existence ou enrichis au contraire par le regard de l'écrivain qui les a jugés assez riches pour les intégrer dans son livre?
Je pense que ça enrichit. Tout le problème que j'avais, c'est que la plupart des personnages qui sont évoqués dans le livre sont heureux d'être devenus des personnages de romans. La grande question, c'est ceux qui n'y sont pas. Ceux-là sont les plus boudeurs et auraient voulu y être, mais je ne pouvais pas écrire un roman de 9000 pages et les mettre tous en lumière.
Oui, ça aurait été votre « À la recherche du temps perdu ».
Voilà.
Alain Mabankou, je vous remercie. Je rappelle que vous avez publié « Lumière de Pointe-Noire » aux éditions du Seuil dans la collection « Fiction et compagnie ». Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio Ville-Marie. À la technique aujourd'hui, Serge Plaisance. Au microphone, Marie-Andrée Lamontagne. À la prochaine.